Au quotidien, avec Hélène Denis.
Le paysage est tellement beau avec ce soleil qui brille. Bon jeudi, celui du 2 octobre 2025. Mathieu, tout baigne?
Oui, comme des beignes à patates.
OK, des beignes à patates. Des beignes aux patates.
Non, à patates.
À patates, c'est comme ça que vous appelez ça?
Eh oui.
Est-ce que vous en faites?
Non.
Alors, sur ces beignes à patates-là, je vous dis bienvenue à cette émission qui ne fera pas patate, n'est-ce pas?
Non,
on le souhaite,
ben non,
on va tout faire
pas.
Pour ça. Jusqu'à 11h avec vous. À l'émission, qu'est-ce qu'on aura? Le chroniqueur François Larochelle, ancien diplomate canadien qui vient nous voir pour nous parler d'actualité internationale. Et aujourd'hui, M. Larochelle va expliquer le plan en 20 points de Donald Trump destiné à mettre fin à la guerre de Gaza. Aussi, nous aurons la chronique Parasport en compagnie de Dominique Tremblay et puis nos chroniqueurs du jeudi dans cette première heure qu'on retrouve toujours avec grand plaisir. Yvan Deslauriers qui sera là à 10h et Monique qui est au téléphone. Monique, dans ses beaux cantons de l'Est. Bonjour Monique.
Ah oui, c'est vraiment, comme vous le disiez Hélène, la pureté du ciel bleu et puis en plus ben, toutes ces couleurs qui se déploient là, qui nous enchantent.
Ah oui, une beauté éloquente. Vous allez parler de douleur aujourd'hui, Monique.
Ben oui, mais oui, dans la revue Epsilon, qui est une revue française de vulgarisation scientifique, ben, il y a tout un dossier qui traite de la douleur. Semble-t-il que la science aurait un peu négligé ce domaine parce qu'on dit « Ah, ben, c'est un peu subjectif la douleur ». Mais il y a des avancées récentes. En fait, on a trouvé peut-être un médicament, donc des avancées en biochimie et en neurologie qui permettent de mieux accompagner les personnes qui souffrent de douleurs autant aiguës, modérées que sévères.
Merci Monique, on se retrouve très bientôt et pour tout de suite, on vous offre une nouveauté, celle de Cœur de pirate de son plus récent album, voici Cavale.
Je repense souvent aux instants passés, à mettre des paillettes, me faire remarquer. Tes bras, tu me dis à quel point j'ai l'air de bien aller, et je sais que
que tu t'en veux d'avoir laissé passer cette chance de m'embrasser. Que deviens-tu si tu nies toujours la fin? Plus d'une fois, deux fois rien.
Cavale de cœur de pirate.
Allons-y avec la une du devoir, Jane Goodall, pionnière dans l'étude des primates n'est plus. La docteure britannique Jane Goodall, célèbre primatologue, éthologue et anthropologue ayant révolutionné l'étude des rapports entre les êtres humains et les autres animaux, est décédée. Celle qui était l'amie des chimpanzés qu'elle a longtemps étudiée avait 91 ans. Son décès lié à des causes naturelles a été annoncé mercredi par l'Institut Jane Goodall, dont elle était la fondatrice. Elle se trouvait en Californie pour une tournée de discours aux États-Unis. C'est une tragédie, regrette Colin Chapman, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur l'écologie et la conservation des primates de l'Université McGill, qui l'a rencontrée pour la première fois en 1990, avant qu'elle devienne célèbre. La docteure Goodall s'est principalement fait connaître en raison de ses recherches sur les chimpanzés. Elle est la première scientifique à avoir observé que ces grands singes utilisent des outils pour s'alimenter. À l'époque, la communauté scientifique était persuadée que les humains étaient les seuls primates à avoir adopté ce comportement. Commencée en 1960 en Tanzanie, son étude des chimpanzés a permis de recueillir de plus amples connaissances sur ces animaux et a également révolutionné la façon dont on pensait l'humain, explique Pascale Sicotte, qui est anthropologue et doyenne de la Faculté des arts et des sciences à Concordia. Roberge clarifie les propos de Legault. Les islamistes radicaux ne sont pas derrière tous les assauts contre les valeurs communes des Québécois, indique le ministre québécois responsable de la laïcité, Jean-François Roberge, des évangélistes qui prétendent accomplir des miracles, ou encore des catholiques qui manifestent à proximité de cliniques d'avortement dans le centre-ville de Montréal. Commettent-ils aussi des assauts contre nos valeurs communes? Je veux dire oui, tout simplement, a répondu M. Roberge dans un entretien avec Le Devoir hier après-midi. L'intervention qu'on veut faire pour les manifestations religieuses spontanées, non organisées comme ça, qui accaparent les lieux publics, ne vise pas une religion en particulier. Les Québécois sont fondamentalement ouverts à la liberté d'expression, à la liberté de conscience et de religion. Je veux dire, des gens ouvrent des mosquées, des temples, des églises, c'est parfait. Mais on s'attend à ce que les manifestations religieuses comme ça se fassent à la maison ou dans les lieux de culte, pas sur l'espace public, en s'appropriant des lieux qui appartiennent à tout le monde, soutient le ministre Roberge. À la une de la presse plus d'aujourd'hui, un assassinat dans un lieu public, un restaurant en plein heure de lunch, un membre du crime organisé assassiné en plein jour, danger public. C'est à lire, on en parle dans le Journal de Montréal, et dans la presse, c'est Daniel Renault et Maïssa Ferra. Des tireurs ont fait éruption dans un café Starbucks de Laval et tiré une pluie de projectiles vers un acteur important du crime organisé qui était attablé mercredi matin, alors que clients et employés rampaient sur le sol partout autour pour s'abriter. Les autorités ont promis d'augmenter la pression sur le milieu interlope en réaction à cette attaque traumatisante qui a fait un mort et deux blessés. Une vidéo obtenue par la presse montre deux individus portant des vêtements sombres, dont des kangourous avec le capuchon sur la tête, qui entrent dans le café près d'un tronçon commercial de l'autoroute 440 peu après 10h35, contournant un écriteau Attention, plancher mouillé. Ils accélèrent le pas et foncent vers une table du fond où sont attablées les victimes. Ils ouvrent alors le feu à plusieurs reprises. Autour, les gens se bouchent les oreilles ou se jettent sous les tables, paniqués. Un jeune homme assis sur une banquette tout près des tireurs enlace sa voisine de table et se penche sur elle pour la protéger. Les suspects quittent ensuite le café en courant, laissant derrière eux une scène chaotique. Au moins une personne s'approche des corps inertes de trois hommes criblés de balles, au milieu des chaises renversées, pour tenter de leur venir en aide. La police de Laval a été appelée sur les lieux, mais l'enquête a vite été transférée à la Sûreté du Québec parce que l'événement a tout l'air d'être lié au crime organisé. Plusieurs sources ont confirmé à la presse que l'homme ayant perdu la vie lors de l'attaque est Chara Lambos Théo Logou, 40 ans, connu pour être le chef d'un groupe du crime organisé très influent à Laval, surnommé simplement « The Greeks » ou « Les Grecs de Chomédée ». Ensuite, à la une de la presse toujours, réforme du régime forestier, furieux mais encore optimiste, l'idée n'est pas d'arrêter de couper du bois. Richard Desjardins fait le point avec Philippe Mercure dans la section « Dialogue de la presse » d'aujourd'hui. Et je termine avec la une du Journal de Montréal. On parle du plus gros bandit de Laval, criblé de balles, l'extorqueur exécuté, et aussi des propriétaires d'auto déchantes, maudits citrons électriques. C'est à lire dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui.
Il habite dans le froid. Il n'a plus ni père ni mère. Il habite dans les bois. Il ne connaît que l'hiver. Il a 13 ans aujourd'hui. Il n'a plus un seul ami, je crois. Parfois il rêve la nuit. Parfois il coupe son bois. Oui, mais il parle aux oiseaux, au soleil et au feu. Mais pas trop froid. Il ne lit pas les journaux. Il connaît cela par cœur déjà. Il n'écoute pas la radio. Il préfère couper son bois. Oui, mais il n'est pas trop froid. Oui, mais il parle aux oiseaux, au soleil et au forêt. Oui, mais il parle aux ruisseaux parfois, quand le temps n'est pas trop froid.
Il, une chanson de Gérard Lenormand.
Oui, de 1972. Monique, j'imagine que vous connaissez Gérard Lenormand.
Oui, oui.
Alors moi, il m'a fait rêver avec Michel. Et cette chanson, Il, vraiment très, très belle, je trouve.
Oui, très, très belle, mais ça ne nous rajeunit pas, 1972.
Non, ça ne nous rajeunit pas. Alors, Monique, on parle de douleur, hein, parce que plus on vieillit, on dirait que plus on commence à avoir des douleurs.
Oui, exactement. C'est un article, comme je disais, qui est publié dans Epsilon et c'est sous la plume de Louane Velten du mois de septembre, en fait. Alors d'abord, Hélène, je vous parle d'un nouvel antidouleur. Et ça, c'est tout un événement. Alors le 30 janvier dernier, la FDA, c'est-à-dire Food and Drug Administration, a autorisé la mise sur le marché aux États-Unis d'un nouvel antalgique, c'est-à-dire un médicament qui soulage la douleur. Et il s'appelle, ce médicament, la suzetrigine. Alors, S-U-Z-E-T-R-I-G-I-N-E. Alors, c'est une première depuis plus de 20 ans, Hélène. On commence enfin à se débarrasser de la vision de la douleur comme étant une sorte de domaine insoluble pour le développement de médicaments. Et semble-t-il que ceux qui avaient abandonné la recherche, eh bien, ils y retournent. Alors, il faut dire que jusque-là, les efforts entrepris par l'industrie pharmaceutique depuis le début de la crise des opioïdes, qui a fait, rappelons-le, près de 800 000 morts depuis 25 ans aux États-Unis, avaient été particulièrement décevants. En effet, entre 2007 et 2022, alors sur les 315 essais cliniques lancés pour de nouvelles molécules, ben seulement 12 ont été approuvés par la FDA, entre autres pour la migraine ou l'anesthésie, et aucune pour la prise en charge de la douleur, qu'elle soit aiguë, modérée ou sévère, pourtant à l'origine, n'est-ce pas, de la prescription des opioïdes. Donc, jusqu'à l'arrivée de la suzetrigine, c'est un médicament non opioïde, donc non addictif, et aussi efficace que certains médicaments actuels et avec peu d'effets secondaires. La molécule agit sur les canaux spécifiques aux nocicepteurs, c'est-à-dire cet sous-ensemble spécialisé de neurones qui détectent la douleur au niveau du système nerveux. Une excellente cible, selon les spécialistes, en inhibant ces canaux, la suzetrigine bloque l'information douloureuse avant qu'elle n'arrive au cerveau. Elle reste ainsi à distance du système nerveux central et n'agit pas sur les récepteurs opioïdes qui sont responsables du risque d'addiction des médicaments actuellement prescrits pour soulager les douleurs aiguës, modérées ou sévères. Donc maintenant que la suzetrigine est autorisée, bien, on peut s'attendre à ce que les essais cliniques s'enchaînent pour développer une molécule encore plus efficace pour les douleurs aiguës et pourquoi pas éventuellement des douleurs chroniques. La suzetrigine n'est pas là pour tout régler. Ce n'est pas le médicament unique et miracle qui obnubile depuis toujours, mais c'est le résultat de la recherche qui se fait depuis 30 ans. Et l'exemple parfait de ce dont nous avons besoin aujourd'hui, donc un médicament ciblé qui fonctionne pour un type de douleur. Maintenant, ben, il faut d'autres molécules qui visent d'autres cibles et soulagent d'autres douleurs. Ça fait un petit peu mal au cœur, Hélène, quand on pense que ça prend 30 ans et qu'on pense aux États-Unis à toutes ces coupures dans les recherches. On se dit, mon Dieu.
Ouais, c'est choquant.
C'est très choquant, c'est très déstabilisant et c'est tellement de temps perdu. Rien ne se fait en claquant des doigts, mais on détruit tout en claquant des doigts.
C'est vrai.
Enfin, c'est mon cri du cœur ce matin.
Monique, je ne sais pas si dans votre texte, il y a un accent aigu sur le « e » de « suzetrigine » parce que moi, ce que je lis, c'est « S-U-Z-E-T-R-I-G-I-N-E ».
Oui, il n'y a pas d'accent, mais j'ai justement cherché la prononciation et on le prononce comme s'il y avait un accent aigu.
Ah, bon, ça ne m'étonne pas de vous. Merci pour la précision.
Mais merci d'avoir vérifié.
J'étais pas sûre. Dans le doute, hein, on s'abstient pas.
Ben, il faut, dans le doute, on vérifie.
Oui.
Très bien. Alors, maintenant, je passe à un autre sujet, toujours par rapport à la douleur, mais cette fois-ci, j'exclus les médicaments et je vous parle du pouvoir de l'effet placebo, qui est quand même très important. Alors, il semblerait que pour la première fois, on a vu agir ce fameux effet dans le cerveau. Ben, celui qui soulage l'enfant au genou éraflé lorsqu'un parent souffle tendrement dessus. Celui que nous mobilisons après un choc. On ferme les yeux et là, on a la respiration approfondie en se répétant « ça va passer ». Celui aussi qui est réquisitionné par le médecin lorsqu'il vous parle des effets positifs d'une thérapie ou de la réussite d'un autre patient. Fin 2024, il y a une équipe californienne qui a mis en évidence in vivo, chez les souris, l'un des circuits neuronaux sollicités lors de cette auto-analgésie. Les chercheurs se sont concentrés sur l'aspect cognitif de la douleur et l'effet placebo. Alors, ils se sont demandé comment cette attente de soulagement influence l'activité neuronale et les circuits de la douleur. On sait depuis longtemps que l'effet placebo réduit la douleur. Depuis une quinzaine d'années, les études ont même permis de le quantifier. Il apaise d'environ 3 points, autant que la morphine, donc de quoi passer d'une douleur intense à une douleur modérée. On savait aussi que ce processus est associé à l'activation de notre système de modulation de la douleur avec une augmentation de la libération de neurotransmetteurs analgésiens comme la dopamine ou les endomorphines et une mobilisation de la partie du cerveau qui est chargée de recevoir et d'interpréter les informations sensorielles du corps. Ça nous montre, Hélène, que le corps et le cerveau sont toujours étroitement connectés. Mais là, pour la première fois, on voit précisément comment cette attente d'un soulagement joue sur l'activité des neurones. C'est un très beau travail, surtout dans l'élaboration d'un modèle chez la souris qui est basé sur l'apprentissage et le développement d'une croyance quant aux situations qui procurent du soulagement. On peut se conditionner, quoi. Les neurobiologistes ont en effet conditionné les souris. Ils leur ont appris à associer un environnement particulier avec une diminution de la douleur et, en fin de compte, avec une attente de soulagement. Puis ils ont suivi, grâce à l'imagerie médicale et à des mesures électrophysiologiques, l'activité des neurones d'un réseau qui s'étend du cervelet au cortex singulaire antérieur. Ça, c'est situé à l'avant du cerveau et c'est connu pour être impliqué dans le contrôle de la douleur. Et ils ont vu que l'anticipation du soulagement suffit pour stimuler ce circuit. Alors, les neurones s'activent dès que la souris entre dans l'environnement connu comme apaisant. On mesure alors la capacité du cerveau à reprendre le contrôle du corps et à engager ses mécanismes de défense endogène, c'est-à-dire à l'intérieur de notre organisme, de défense donc endogène par la motivation, les attentes et les envies. L'effet placebo réside dans cette attente, cet espoir d'un résultat positif. Ça montre vraiment le contrôle comportemental que le cerveau peut appliquer sur la douleur. Il enregistre constamment les potentiels dangers, mais aussi ce qui peut nous faire du bien. Il apprend et collectionne toutes ces expériences qui vont ensuite moduler notre niveau de sensibilité à la douleur. Un contrôle si puissant qu'il suffit de voir une personne être soulagée par un traitement pour ressentir soi-même de l'apaisement. Alors, nous sommes dans un moment de bascule où la communauté scientifique commence à prendre en compte cet effet et les chercheurs, essaient de quantifier pour ensuite l'utiliser comme un catalyseur dans la prise en charge de la douleur. Mais ça demande beaucoup de concentration et de motivation pour nous, êtres humains, à se conditionner donc à ces environnements qui nous permettent justement d'apaiser nos douleurs. Alors, c'était les deux volets de ce grand dossier dont je voulais vous faire part, Hélène, sur la douleur. Donc, un bon médicament et, pourquoi pas, conditionner son cerveau à avoir moins mal.
Parce qu'avoir mal, ça gâche la vie. Merci, Monique.
Oui, oui, exactement. Mais il y a toutes sortes de petits trucs qu'on peut développer pour justement atténuer, si ce n'est pas faire disparaître ces douleurs qui peuvent être légères, mais aussi sévères et pour certains chroniques.
Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas, je vais bloquer l'ascenseur. Je vais prendre ta douleur. Saboter l'interrupteur. Je vais prendre ta douleur. Mais ce qui s'est incrusté, cet orage avant l'été, cette chupine petite sœur. Tout lui confisquer, ses fléchettes et son sifflet, je vais lui donner la fessée. Je vais prendre ta douleur, la virée de la récré. Je vais prendre ta douleur. Mais c'est qui cette héritière qui se baigne, qui se terre dans le tiède de tes reins?
Écoutez au quotidien avec Hélène Denis.
Je pars. beau. Pourquoi quand tout déraille, tu fermes le rideau, seul sur la paille, t'essaies de coller les morceaux.
Vincent Vallière et sa chanson « Sarah ».
C'est le premier extrait de son prochain album qui va paraître le 14 novembre et qui s'intitulera « Les saisons, les secondes ». Et tout de suite, on joint Yvan Deslauriers. Bonjour Yvan.
Bonjour Hélène.
Ça va bien?
Ça va très bien, merci.
Oui, oui, bien, je suis contente. Oui, ça va. Alors aujourd'hui, vous avez choisi de partager avec nous une histoire émouvante.
Oui. Oui, vraiment une histoire émouvante. Une histoire aussi qui ouvre des horizons, qui ouvre des possibilités, autant dans la situation de notre héros, de notre personnage principal dans cette lecture, mais aussi on peut se remettre aussi nous-mêmes en question dans plusieurs phases de nos vies, pas nécessairement dans le but de courir un marathon, mais peut-être de considérer des activités qui vont nous permettre de sortir d'une ornière. C'est peut-être un peu dans cet esprit-là que je vais lire ce texte. C'est un article qui est paru vendredi dernier, le 26 septembre, écrit par Éric Martel dans La Presse, mais on peut trouver des articles sur cet exploit dans plusieurs médias, plusieurs endroits. Vous avez juste à taper dans votre moteur de recherche « sans-abri, marathon » et soudainement, vous allez avoir plusieurs articles qui touchent sur Jonathan Léger Dubuc qui a décidé de courir pour guérir. C'est le titre de l'article que je vous lis. « Au fil d'arrivée, Jonathan Léger Dubuc a fondu en larmes. À 38 ans, pour la première fois de sa vie, l'homme qui vivait dans la rue il y a quelques mois à peine sentait qu'il venait d'accomplir quelque chose. Il venait de terminer le marathon de Montréal, son premier. Au début de l'été qu'on vient de finir, c'est pas il y a quelques années, tout près, Jonathan perd son emploi déboueur quelques semaines après son embauche. Pour la énième fois de sa vie, il vit le rejet. Après celui de ses proches à l'enfance, puis de ses professeurs à l'école, il a dû faire face au rejet de ses employeurs. Gaffeur, parfois colérique, jamais il n'est parvenu à conserver un emploi pendant plus d'un mois. Il dit « J'avais le cœur brisé. Je n'allais nulle part. J'avais besoin de me défouler, de libérer ma souffrance mentale. J'étais épuisé. Je n'étais capable de ne rien faire. » En racontant son histoire, Jonathan insiste pour marcher. Bouger permet à cet anxieux de canaliser sa concentration. Sa vie a commencé à déraper il y a plus d'un an et demi. À ce moment-là, son frère, avec lequel il habitait toujours l'appartement dans lequel ils sont nés, quitte le nid familial sans préavis. Seul, sans emploi, Jonathan est incapable de payer le loyer. Il se retrouve à la rue en plein hiver. Il dit, je me suis senti blessé, laissé à moi-même, comme si ma vie était perdue. J'ai voulu me tuer. Hébergé d'urgence dans différents refuges, il obtient, 2 mois plus tard, un logement social subventionné à la mission Old Brewery dans le Vieux-Montréal. Quand il est arrivé, il était perdu. Il avait du mal à trouver ses repères, à avoir une routine, se remémore l'intervenant en suivi psychosocial Mohamed Souma. Juste de faire l'entretien de son logement ou de manger midi et soir, c'était un défi. Si on prenait rendez-vous avec lui, il n'arrivait pas à le respecter. Jonathan demeura dérouté jusqu'en juin dernier, rongé par la consommation de cannabis et d'amphétamines et par des problèmes d'argent. Il peine à garder le cap. Il dit « Je suis sur l'aide sociale. L'argent que je fais suffit à peine à rembourser les gens à qui j'emprunte pour survivre. Ça me rend fou. » Dans la même semaine, son vélo brise et il perd son emploi. Ces éléments déclencheurs allaient le mener vers sa nouvelle passion. Je me suis promis que je n'allais pas rester enfermé tout l'été. J'ai décidé que j'allais me guérir moi-même. Jonathan part à la course. Il parcourt 10 kilomètres sans difficulté, comme si de rien n'était. Il tombe en amour avec la course au point où il lance aux dirigeants de la mission Old Brewery une idée folle. Courir le marathon avec moins de 2 mois de préparation. Le directeur paie ses frais d'inscription. L'accueil Bonneau l'appuie. En lui trouvant un dossard, il n'y en avait plus disponible avec un si court préavis. Et tout à coup, son rêve est sur les rails. Celui qui fumait auparavant 2 paquets de cigarettes par jour allait devenir un marathonien. Avec un nouvel objectif en tête, le comportement de Jonathan change. Maintenant, il suit une routine. Il se lève, mange et court aux mêmes heures. Il suit un régime et un plan d'entraînement strict. Ses engagements avec les membres de la mission Old Brewery, il arrive désormais à les maintenir. M. Souma nous dit, Jonathan redevient l'homme qu'il a toujours voulu être, après avoir été victime de rejet toute sa vie. Il a maintenant un sentiment d'appartenance à un groupe. Il se sent enfin respecté. Au jour J, dimanche, bon, on dit dimanche dernier, là, mais c'est dimanche il y a 2 semaines.
Le dimanche du marathon.
Le dimanche du marathon, évidemment. Jonathan arrive 1 heure à l'avance. Question d'être fin prêt mentalement. Autour de lui se trouvent des coureurs équipés de casquettes griffées, de paires de souliers de l'année, de barres énergétiques. Le sentiment d'imposteur s'empare de lui. Ça m'a fait peur. Je voyais que c'était du monde très sérieux. Je me demandais si j'étais à la hauteur. Puis, Jonathan se met à courir. Et quand il court, son esprit se libère. Il oublie son statut, ses dépendances, ses problèmes d'argent. Il court pendant plus de 4 heures, certes avec quelques douleurs, mais jusqu'à la fin. Dans la vie, je me dis que c'est impossible d'améliorer sa situation sans douleur. Il fallait que je pousse, même si j'étais épuisé. Ça aura valu la peine. J'ai ressenti la plus grande fierté de ma vie. Jonathan n'arrête pas. Il continuera de courir dans l'espoir de terminer parmi les premiers du marathon l'an prochain. Il continuera aussi dans l'espoir d'arrêter de consommer. De courir aux mêmes heures, tous les jours, ça me donne la persévérance qu'il me faut pour arrêter. Je consomme parce que je n'ai pas de plaisir, pas d'argent, pas de copine. Je sens que je n'ai aucun moyen. Mais courir, c'est gratuit. Je peux m'y accrocher. Il termine en disant, « Je pense qu'il y a toujours moyen de s'en sortir, de garder espoir, parce que l'espoir, c'est ce qui nous tient en vie. » De l'espoir, il en a reçu toute une dose le dimanche du marathon. Au fil d'arrivée, il a entendu un cri, celui de son frère, qu'il n'avait jamais revu depuis qu'il s'était retrouvé dans la rue. Je l'ai pris dans mes bras, on a pleuré, c'était la première fois de sa vie qu'il était fier de moi, murmure Jonathan en fermant les yeux. Alors, c'est un article coup de poing, c'est un article étonnant, puis c'est un article qui nous fait sourire par rapport à la vie. Donc, ça s'appelle « Courir pour guérir, de la rue au marathon ». C'est un article dans la presse, écrit par Éric Martel le 26 septembre. Mais on peut trouver d'autres histoires autour de cet exploit à plusieurs endroits dans Internet.
Alors, c'était l'histoire émouvante de Jonathan Léger-Dubuc. Oui, un article coup de poing et qui va droit au cœur. Merci beaucoup, Yvan.
That when it snows, my eyes become alive, and the light that you shine can't be seen. Baby, I can pay you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, stranger it feels, yeah. And now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. A man can tell you so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a light and the light that you shine can't be seen. So much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Now, won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a lot, and the light that you shine can't be seen? Yeah.
that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave.
Kiss from a Rose, c'était Seal.
Et c'est le moment d'aborder les brèves avec Monique et Yvan. D'abord, Monique, les ruches en ville, est-ce une bonne idée?
Qu'en pensez-vous?
Je dirais que non.
En tout cas, il y a une équipe de recherche, Hélène, qui s'est penchée sur la durabilité et les effets sur la biodiversité urbaine de l'apiculture à Montréal. Donc, que vous ayez le choix ou pas, il y a de l'apiculture à Montréal. Et bon, c'est plutôt séduisant, voire poétique. Mais les chercheurs se demandent, est-ce que les villes sont réellement adaptées à la survie des abeilles domestiques, mais il y a aussi les abeilles sauvages. Alors, il y a une équipe de recherche qui s'est intéressée à la question en analysant plus de 1000 ruches quand même installées à Montréal entre 2017 et 2021. Cette recherche menée par Liliana Perez, qui est professeure au département de géographie de l'Université de Montréal, a évalué la survie des colonies des abeilles dans un environnement urbain, en plus de déterminer les principaux facteurs qui influencent leur viabilité. Le résultat, eh bien, près de 70 % de l'île de Montréal serait propice à l'apiculture. La concentration de ruches dans l'espace restreint a retenu l'attention de l'équipe de recherche parce que plus cette concentration est élevée, mais plus la mortalité des abeilles l'est aussi. Alors, pourquoi? Parce qu'une densité excessive engendre une compétition féroce pour les ressources florales, une transmission accrue des maladies et une fragilisation générale des colonies. Il faut donc éviter de faire de chaque toit une ruche. Outre la saturation en ruche, l'étude souligne que le couvert forestier est aussi un facteur important à considérer pour tendre vers une apiculture urbaine durable. Alors, plus un secteur est riche en végétation, arbres, arbustes, fleurs, parcs, jardins communautaires, plus les chances de survie d'une ruche augmentent. L'étude spécifie d'ailleurs que ce couvert devrait idéalement être élargi à 3 km autour de la ruche, parce que les abeilles, elles se promènent jusqu'à plus de 3 ou 5 km. Donc, la santé des abeilles étant étroitement liée à l'aménagement urbain dans son ensemble. Alors, en conclusion, aux yeux de la chercheuse, la durabilité passe aussi par des politiques de régulation. Il faut donc une planification à l'échelle du quartier et une meilleure sensibilisation du public quant aux conséquences d'une mauvaise gestion et donc d'une exagération des installations d'abeilles, en fait.
Je me demandais si le miel de la ville avait le même goût que le miel de la campagne.
Ça dépend des fleurs.
Oui, c'est toujours ça. Yvan, vous avez une brève?
C'est un petit goût de pollution. En fait.
Ça, on n'en veut pas.
Moi, les deux brèves que j'ai aujourd'hui, c'est à propos de deux personnes que Francine Forget et moi, on a accueillies lors des enregistrements des émissions Au-delà des limites dans le passé. Alors, la première, c'est Kim Auclair. Kim Auclair, c'est une entrepreneuse, une communicatrice qui vit elle-même avec une surdité. Alors, avec le succès de sa première saison, la première saison de Capable, entreprendre sans limites, elle revient cette année avec une deuxième saison de 10 nouveaux épisodes qui donnent la parole à des personnes en situation de handicap qui ont su créer leurs propres opportunités. C'est une émission qui est produite cette fois de façon 100% indépendante par Kim Auclair elle-même, qui est présidente de communication Niviti Inc. et fondatrice de Capable.media. Soutenue par des partenaires majeurs comme la Banque de développement du Canada, l'Office des personnes handicapées du Québec et la Fondation des sourds du Québec, la série met en lumière les compétences et la créativité des personnes en situation de handicap. Au-delà des portes parfois closes sur le marché du travail, elle rappelle que l'entrepreneuriat et le travail autonome sont aussi des voies d'avenir prometteuses. Alors, la série a été tournée entièrement à Shawinigan parce que Kim demeure à Shawinigan dans les studios de Nomad.tv. au Centre d'entrepreneuriat Alphonse Desjardins. C'est 10 épisodes de 35 minutes, dont le premier épisode est maintenant disponible. C'est avec la comédienne Charlie Rousseau qu'on peut voir dans la série.
Oui, Vestiaire.
Et on peut voir cet épisode sur www.capable.media et les épisodes suivants vont être diffusés à chaque semaine. Pour vous donner un petit avant-goût, il y a Charlie Rousseau qu'on connaît bien, il y a Chantal Petitclerc aussi qu'on connaît bien et il y a Marisol Saint-Onge qui font faire partie des différents invités.
Belle brochette, comme on dit.
Belle brochette de gens qu'on connaît et de gens qu'on va connaître.
Oui.
Il y a des noms que j'ai pas prononcés parce que je les connais pas, mais je vais sûrement les connaître en regardant la série.
Capable, entreprendre sans limite, c'est donc la saison 2 de cette production 100% indépendante signée Kim Auclair. Merci, Yvan. Les femmes parlent-elles plus que les hommes? Grande question, je sais pas. Ben, moi, je connais des femmes qui parlent beaucoup puis des hommes qui parlent beaucoup.
Ouais, ben en tout cas, on va aussi à la petite étude qui a été faite ici. Alors, on nous dit que oui, les femmes parlent plus que les hommes, avec 3200 mots de plus prononcés par jour en moyenne, selon une nouvelle étude.
Elles ont plus de vocabulaire?
Ou plus d'idées. Mais c'est vrai seulement entre 25 et 64 ans. Dans les autres tranches d'âge, ben, les différences entre individus sont telles que l'effet du genre n'atteint pas un degré statistique significatif. N'empêche que ces résultats remettent en cause une étude fondatrice de 2007 qui ne trouvait aucune différence de loquacité entre hommes et femmes. Peut-être parce que l'échantillon de l'époque était sans doute trop faible, alors que la nouvelle étude a rassemblé une masse de données conséquentes. 630 000 enregistrements de 2200 personnes venant de Suisse, de Serbie, d'Australie et des États-Unis. Mais elle laisse aussi entrevoir un effet de l'âge. Alors, il semblerait, Hélène, que passé 65 ans, la situation s'inverserait, les hommes devenant plus loquaces.
Eh bien!
Ça sera à vérifier dans notre entourage, peut-être.
Oui, oui, auprès
des... J'ai aucune idée de quoi vous
parlez. Pardon?
J'ai aucune idée de quoi vous parlez.
Et pourtant, vous avez plus de 65 ans, si je ne m'abuse.
Oui, mais vous ne vous abusez pas.
Est-ce que ça s'applique à vous? Est-ce que vous sentez que vous avez plus de choses à dire ou que vous parlez davantage depuis que vous avez 65 ans?
Ah, mon Dieu, je dirais à l'occasion seulement. La radio, l'animation à la radio m'a appris à écouter beaucoup plus qu'à parler. Ça dépend vraiment des occasions.
Oui, parce que des gens qui écoutent, on dirait qu'il y en a de moins en moins. Ça pourrait être une bonne question aussi. Est-ce que les femmes écoutent mieux que les hommes, Monique?
Oui, ben, je vais chercher, Hélène.
D'accord. Alors, une brève pour vous, Yvan.
Oui, en bref, j'ai perdu l'Internet présentement. Alors, j'y vais un peu de mémoire. La brève touchait Jocelyne Richard, qui est la présidente directrice générale de l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain. La soirée bénéfice 2025 de l'organisme va avoir lieu, puis c'est là que j'ai un blanc, c'est en novembre. Je ne sais pas exactement, il faudra aller voir sur le site de l'association. Et c'est Marie-Denise Pelletier qui va être l'artiste en vedette lors de cette soirée-là. Donc, on prévoit une soirée vraiment, vraiment très intéressante. Je n'ai plus les détails devant moi, alors je dois broder. Donc,
alors, ça se passe en novembre, vous aurez l'occasion d'y revenir, j'imagine?
Oui, alors, je vais le faire avec plaisir, sûrement. Mais il y a des billets qui sont encore disponibles. Vous allez sur le site de l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain dès que vous êtes dans un endroit où il y a Internet.
Parfait. Et on termine avec une capsule linguistique avec vous, Monique.
Oui, alors la différence entre les verbes distancer et distancier.
Ouais, dites-nous tout.
Alors, distancer, c'est établir une distance physique ou imaginaire entre deux choses. Par exemple, une voiture peut en distancer une autre sur la route et non pas distancier. Au figuré, on peut aussi dire qu'un élève qui a du succès en classe, ben, qu'il distance ses camarades, c'est-à-dire qu'il se démarque des autres. Alors que le verbe distancier a un sens plus abstrait, on l'utilise presque toujours à la forme pronominale. Alors, se distancier de quelque chose, c'est prendre du recul ou de la distance par rapport à cette chose. Un exemple, on devrait peut-être se distancier d'un maître parce que, bon, on vole de nos propres ailes, ou encore on peut vouloir se distancier de mauvaises habitudes, et voilà, ou d'aliments qui ne sont pas... Non, je termine là.
Okay, alors, on va prendre nos distances pour l'instant.
Oui, c'est ça, exactement.
Merci beaucoup, Monique. Merci beaucoup, Yvan. Et on se retrouve la semaine prochaine.
Au revoir.
À la semaine prochaine.
Vous pouvez rejoindre, vous écouter au quotidien avec Hélène Denis.
C'est le moment de parler parasport en compagnie de Dominique Tremblay. Bonjour, Dominique.
Bonjour, Hélène.
On y va avec les championnats du monde de para-athlétisme.
Oui, ça se déroule présentement à New Delhi, en Inde. Les compétitions vont se dérouler jusqu'à dimanche. L'équipe canadienne de cette année est composée de 17 athlètes paralympiques, dont 7 qui ont gagné des médailles lors des Jeux paralympiques, puis aussi gagné. Et 5 athlètes font aussi leur début lors des championnats du monde. En termes de résultats, il y a deux Québécois qui participent aux championnats du monde. Anthony Bouchard dans le 100 mètres T52, c'est pour les athlètes en fauteuil roulant qui ont une quadriplégie. Donc lui, il va courir samedi pour voir si ça va bien aller. Il a gagné une médaille à Paris, donc il devrait sensiblement monter sur le podium, si tout va bien. Et il y a Guillaume Ouellette qui a couru hier dans le 5000 mètres T13. T, c'est pour track. Donc, il y a des lancers dans la catégorie S. Les lanceurs, c'est F. Et les coureurs en fauteuil roulant ou debout, leur catégorie de classification, dépendant de leur handicap, la lettre et le T et le chiffre parle de la façon dont leur handicap affecte leur performance sur la piste ou dans les lancers. Donc, pour revenir à Guillaume, il a terminé 6e lors de sa course. C'est quand même un bon résultat pour Guillaume qui en était à sa 6e participation au championnat du monde. Ça a été quand même rock'n'roll, là, sa journée pour hier. Pour faire le trajet de l'hôtel jusqu'au stade, New Delhi, quand même une très grosse ville. D'habitude, le trajet d'autobus entre l'hôtel et le stade prend à peu près 30 minutes, mais les athlètes ont été pris dans un gros embouteillage qui a duré plus de 2 heures. Donc, d'habitude, un athlète, puis on prévoit arriver 1h30 avant l'heure de sa course pour se préparer, se réchauffer, après ça aller dans la salle d'appel où il y a les athlètes qui participent dans la même course, se retrouvent dans la même salle pour se concentrer et se préparer. Guillaume a eu seulement 5 minutes pour se réchauffer avant de se rendre à la salle d'appel. Donc, c'est pas vraiment... Les conditions idéales là, pour un athlète et qui a quand même réussi une 6e place. C'est bon. La seule différence, c'est que à 3 tours de la fin, là, les meneurs ont donné un petit coup de vitesse là, pour prendre le large. Et Guillaume n'a pas été capable de suivre, mais ça reste une bonne performance.
Bon, Guillaume 6e participation, 6e place.
Oui, c'est ça. Et là, il ne sait pas s'il va se rendre jusqu'au prochain jeu paralympique de Los Angeles. Maintenant, âgé de 39 ans, là, il prend les saisons une année à la fois. Et peut-être qu'on le reverra sur la piste dans le futur.
Bon.
Il y a d'autres choses. Donc, c'est la 11e édition des Jeux, des championnats du monde d'athlétisme. À New Delhi cette année, le Canada, jusqu'à maintenant, a seulement 3 médailles de bronze. C'est pas un très grand nombre de médailles, mais il y a encore quelques jours de compétition et le Canada devrait en gagner quelques-unes, là, comme j'ai parlé plus tôt d'Anthony Bouchard. Mais plus ça va, plus le nombre de médailles diminue.
Diminue, pour, ah oui?
Oui, pour le Canada. La grosse différence, c'est que, donc, dans les premières années du championnat du monde, le Canada se classait facilement dans les 10 premiers, surtout à Berlin en 1994, à Birmingham en 1998, parce qu'à ce moment-là, il y avait moins d'athlètes qui participaient au championnat du monde et moins de pays, et il y avait plus d'événements dans lesquels les athlètes pouvaient gagner des médailles. Par exemple, à Kobe, l'année dernière, en 2024, le Canada avait gagné seulement 2 médailles et avait terminé 43e. À Paris, en 2023, le Canada avait terminé 24e avec seulement 17 médailles. Et à Londres, en 2019, seulement 6 médailles. Donc, c'est pas des gros chiffres, mais le sport du para-athlétisme se démocratise et il y a beaucoup plus de pays qui participent et beaucoup plus de pays qui investissent dans le monde du sport paralympique, ce qui est bien pour le sport en général, mais ça devient plus difficile pour le Canada.
La compétition est plus relevée.
Plus féroce.
Plus féroce. Ouais. Et l'Assemblée générale du Comité international paralympique, ça s'est tenu ou ça se tient ces jours-ci?
Ça s'est tenu la semaine passée. André Parsons a été réélu comme comme président du Comité international paralympique. Il doit s'agir de son 3e mandat. Mais la grosse nouvelle lors de l'Assemblée générale, c'est que lors d'un vote de tous les membres du Comité international paralympique, ont décidé de réadmettre le Comité paralympique de la Russie et de la Biélorussie. Ces deux pays avaient été bannis en 2023 suite à l'invasion de la Russie
en Ukraine. Ouais.
Donc, pour un bris des règlements du Comité paralympique, mais lors d'un vote, là maintenant la Russie a été réadmise. On ne sait pas trop de quelle façon ça va avoir l'air. Il y a encore d'autres des pourparlers qui vont se tenir parce que dans la plupart des fédérations internationales, les athlètes russes ou biélorusses qui veulent participer à des compétitions doivent le faire dans une équipe neutre sans avoir de drapeau ou d'effigie à la Russie ou à la Biélorussie. Donc, pour les prochains Jeux paralympiques, ça risque d'être intéressant de voir qu'est-ce qui va arriver et aussi s'il y a des pays qui vont décider de ne pas participer si la Russie et la Biélorussie participent aux Jeux. Fait qu'au cours des prochains mois, là, ça va être très intéressant du déroulement de tout ça.
Oui, parce que la guerre en Ukraine n'est pas terminée.
Pas terminée, alors.
Malheureusement.
C'est la vie.
Merci beaucoup, Dominique. On se retrouve la semaine prochaine.
Oui, merci. Au revoir.
Rosie Vallant et sa chanson « Chaos ».
Merci. Oui, parlant de chaos, lundi cette semaine, lors d'une rencontre à la Maison-Blanche du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avec le président Donald Trump, ce dernier a présenté un plan en 20 points destiné à mettre fin à la guerre à Gaza. Et pour nous en parler, je reçois, comme à toutes les trois semaines, François La Rochelle, ancien diplomate canadien. Bonjour, Monsieur La Rochelle.
Bonjour, Madame Denis.
Alors, que faut-il retenir de ce plan?
Bon, d'abord, le plan doit être accepté par les deux parties, ce qui n'est pas fait parce que Netanyahou, lui, l'a accepté. Mais le cabinet israélien doit se prononcer et on attend toujours la réaction du Hamas. Ceci dit, le premier élément, je pense, à retenir, c'est que dans ce plan-là, on prévoit la libération des otages par le Hamas. Dans les 72 heures suivant l'acceptation publique du plan par Israël. En échange, Israël relâcherait 250 prisonniers palestiniens condamnés à la prison à vie et plus de 1700 prisonniers détenus depuis l'attaque du 7 octobre 2023 à Gaza. Le texte prévoit un arrêt complet du conflit à compter du moment où les deux parties en acceptent le contenu. L'aide humanitaire devrait reprendre, et ce, par l'intermédiaire des Nations unies. Ensuite, il y aurait un processus de désarmement du Hamas, de destruction de ses infrastructures militaires et la fin de tout rôle du Hamas dans la gouvernance à Gaza. Le plan offre une amnistie et une possibilité de quitter Gaza aux membres du Hamas. Une force internationale de stabilisation, enfin une force militaire arabe, serait déployée et aurait la charge des questions sécuritaires. L'armée israélienne lui transférerait graduellement le contrôle du territoire. Sur une base intérimaire, le pouvoir sur l'enclave serait assumé par une autorité civile indépendante, formée de technocrates internationaux qu'on ne connaît pas et palestiniens. Cette structure indépendante serait supervisée par ce qu'ils appellent un comité de la paix, Board for Peace en anglais, qui serait présidé par nul autre que Donald Trump lui-même. À noter que le plan Trump rejette une occupation israélienne de Gaza et le déplacement forcé des Gazaouis hors de l'enclave, ce qui était des réalités dont on a parlé au cours des dernières semaines. Et donc, ça ne se ferait pas selon ce plan. Finalement, le plan évoque un espoir lointain qu'il sera une voie crédible vers la création d'un État palestinien.
Que doit-on en penser?
Franchement, je pense que c'est surtout un plan israélien pour une paix relative et limitée. Le Hamas n'a jamais participé aux négociations. Évidemment, on ne peut que saluer toute initiative qui mettrait fin au génocide à Gaza et qui obtiendrait la libération des derniers otages israéliens retenus dans l'enclave. Le plan fixe cet objectif ainsi que la reconstruction du territoire. Mais c'est après ça que les choses se compliquent. D'abord, les conditions et le calendrier du retrait du territoire par l'armée israélienne sont très vagues. L'autorité palestinienne ne participerait pas au pouvoir aussi longtemps qu'elle ne serait pas réformée, ce qui peut être long et complexe. Le plan de Trump surtout évite la mention des deux États, passe sous silence la Cisjordanie et ne mentionne pas du tout le droit international ou le respect du droit international. Mais cette feuille de route, cependant, oblige le premier ministre israélien à exclure un nettoyage ethnique et une recolonisation de Gaza par l'État hébreu, comme je le mentionnais plus tôt.
Et quelle est la réaction internationale à ce plan?
Bon, il a été évidemment rapidement appuyé par l'autorité palestinienne et par un groupe important de pays arabes et musulmans. La France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Canada l'ont aussi fait, et d'autres pays, bien sûr. Si les pays de la région et les autres là, qui ont appuyé le plan l'ont soutenu, c'est probablement parce que c'est faute de mieux. La priorité absolue est de donner une chance à la première tentative sérieuse de cesser le feu permanent et de préserver l'intérêt de Donald Trump pour ce dossier.
Et puis maintenant?
Bon, on attend la réaction du cabinet israélien et celui du Hamas. Les membres de l'extrême droite du cabinet israélien ont fait part de leur opposition, du moins en public. Lundi soir, par contre, le Qatar et l'Égypte ont transmis le document du Hamas qui s'est engagé à l'étudier sérieusement, l'étudie toujours.
Et quels sont les signaux qui viennent du Hamas?
Bon, le groupe ne veut pas, évidemment, apparaître comme le seul responsable d'un échec du plan de paix et la pression qui s'exerce sur lui est immense. D'abord, il fait face à l'opinion palestinienne qui s'épuise à attendre la fin de la tragédie à Gaza. Et des voix au sein même du Hamas estiment qu'il est temps de faire taire les armes. Car en cas de refus, l'alternative exprimée par Netanyahou et Trump sera la poursuite de la destruction de Gaza. Les négociateurs palestiniens espèrent probablement trouver un moyen d'amender le texte en leur faveur. Par exemple, que le retrait total des troupes israéliennes ne soit pas un préalable au cessez-le-feu est un obstacle majeur pour Hamas. En fait, l'armée israélienne n'abandonnerait toutes ses positions qu'une fois le désarmement du mouvement islamiste constaté. L'armée israélienne entend aussi conserver pour un temps indéterminé une zone tampon dans Gaza. La prise de décision du Hamas est en plus compliquée du fait que le leadership militaire a été éliminé graduellement par Israël. Mais le risque avec ce plan, franchement, c'est d'enterrer le rêve d'un État palestinien en mettant Gaza et la Cisjordanie sous deux régimes différents. Car ce plan remplace une occupation israélienne de Gaza par une autorité internationale, une sorte de mandat, comme on l'a connu dans la région dans les années 20.
Et votre prédiction à vous sur le choix du Hamas, le choix historique du Hamas?
Écoutez, je n'oserais pas m'aventurer là-dessus, mais je citerai un Palestinien interviewé récemment à Radio-Canada.
Oui, cette semaine.
Oui, c'est ça, je pense que l'émission de Patrice Roy. Il disait, si le Hamas accepte le plan, il n'y aura plus de Palestine. S'il refuse, il n'y aura plus de Palestiniens.
Ouais.
C'est donc un choix cruel et cornélien pour les dirigeants qui restent du Hamas. Et on devrait le connaître là, dans les prochaines heures, prochains jours.
Ah oui, alors on va suivre ça de près, évidemment. François Larochelle, ancien diplomate canadien, merci beaucoup.
Bien, c'est moi qui vous remercie. Au revoir.
Alain Lefebvre et sa pièce « Consolation ».
Oui, c'est le titre de son nouvel album « Consolation » Alain Lefebvre qui signe une œuvre lumineuse née du silence. Très bel album paru le 19 septembre dernier. Lundi, j'ai assisté à la première de la pièce « Tableau d'une exécution » au Théâtre du Rideau Vert. C'est une pièce écrite par Howard Barker, qui est un dramaturge britannique, qui peint aussi et qui est un poète. Et la pièce est mise en scène par Michel Monti. Alors, l'histoire de ce tableau d'une exécution, c'est celle d'une peintre de la Renaissance italienne née à Venise. On est en 1571. La peintre s'appelle Galaxia, une femme libre, une fonceuse, badass, comme diraient certaines personnes, qui est incarnée par nul autre que Sylvie Drapeau. Alors, son personnage se fout des conventions. Elle peint ce qu'elle a dans les tripes. Quand la pièce s'ouvre, le Doge de Venise, qui est incarné par Jean-Moïse Martin, qui est très bon d'ailleurs. Donc, le Doge de Venise est en train de lui donner ses commentaires sur l'œuvre qu'il lui a commandée, une œuvre qu'on veut comme une œuvre témoin de la victoire remportée lors de la bataille de Lépante. Et le Doge souhaite que son frère occupe plus d'espace sur le tableau. Et Galaxia, donc, va se mettre à l'ouvrage. Et elle n'a pas les mêmes vu que le Doge et son entourage sur cette bataille. Pour elle, c'est la souffrance qui l'emporte sur la gloire. Et quand sa fresque est dévoilée, ben ce sera la révolte des gens qui voulaient que ce tableau glorifie la victoire de la bataille. Et puis, il y aura une confrontation, et je ne vous dirai pas tout, mais je peux vous dire que la pièce interroge la raison d'être de l'art, la raison d'être de l'artiste, le pouvoir des hommes, l'idéalisation de la guerre pour certains hommes. Et j'ai apprécié la pièce. C'est une mise en scène de Michel Monti qui m'a laissé quand même un peu dubitative, si je peux dire, parce qu'il joue sur différents tableaux sans vouloir faire de jeu de mots. On est au 16e siècle et puis tout à coup, on se trouve dans la modernité, celle d'aujourd'hui avec la critique d'art habillée en tailleur qui s'est mise dans le paysage. Alors, on comprend bien là, qu'il veut aussi montrer que ce qui se passait dans le temps de la Renaissance, ça a des échos, des résonances avec notre époque d'aujourd'hui. Les comédiens jouent sur différents tons, différents registres. Alors, il y en a qui jouent avec une intention plus dramatique, d'autres avec de la comédie dans le sang. On est dans la comédie dramatique ou carrément dans le burlesque. Alors, moi, ça m'a fait un petit peu décrocher, ça m'a rendu perplexe. Et la pièce prend du temps à prendre son envol, mais le sujet demeure pertinent. Et de regarder Sylvie Drapeau évoluer sur une scène, c'est une fascination de tous les instants. Quelle actrice vraiment hors du commun. Et comme je vous le disais tantôt, j'ai beaucoup aimé Jean-Moïse Martin qui a un jeu subtil dans son affectation. Et la présence de Maxime Desnommé aussi en amant un peu dépassé et est très, très agréable. C'est un excellent comédien. Donc, cette pièce est présentée au Rideau Vert et je vous rappelle le titre, c'est « Tableau d'une exécution ». Thank you. Taylor Swift. Les cinémas Cinéplex se permettront aux admirateurs de Taylor Swift de célébrer de vendredi à dimanche la parution du nouvel album de l'artiste américain, The Life of a Showgirl. Pendant 3 jours, les Swifties se réuniront pour visionner en exclusivité sur grand écran le vidéoclip de la chanson The Fate of Ophelia. Seront également diffusées des images inédites du tournage du vidéoclip, de toutes nouvelles chansons ainsi que des réflexions personnelles de Taylor Swift sur les pièces de ce 12e album. Les événements auront lieu un peu partout dans le monde, a annoncé Taylor Swift sur Instagram. À Montréal, les cinémas Carrefour en Grignon, Forum, Banque Scotia, Quartier Latin, Star City vont accueillir les admirateurs de la chanteuse en fin de semaine. Les billets sont en vente. Passez une excellente journée, une bonne fin de semaine également. On se retrouve lundi prochain, je le souhaite ardemment. Merci Mathieu Tessier à la mise en onde et on se retrouve à 9h30 lundi. À bientôt.